Chapitre 4. Les sociétés de propriétaires, le cas de la France. Nous venons d'étudier le moment de rupture emblématique que constitue la Révolution française dans l'histoire des régimes inégalitaires. En quelques années, les législateurs révolutionnaires ont tenté de redéfinir les relations de pouvoir et de propriété héritées du schéma trifonctionnel et d'opérer une séparation stricte entre les pouvoirs régaliens, désormais monopole étatique, et le droit de propriété, réputé ouvert à tous. Cela nous a permis de mieux saisir l'ampleur de la tâche et des contradictions auxquelles ils se sont heurtés, et en particulier la façon dont ces processus politico-juridiques et événementiels complexes ont buté sur la question de l'inégalité et de la redistribution de la propriété, et ont souvent conduit à pérenniser dans la langue propriétariste nouvelle des droits issus de dominations trifonctionnelles anciennes comme les corvées et les lots. Nous allons maintenant analyser l'évolution de la répartition de la propriété en France au XIXe siècle. La Révolution française laissait entrevoir plusieurs trajectoires possibles, mais la voie qui fut finalement choisie a conduit au développement d'une société de propriétaires extrêmement inégalitaire entre 1800 et 1914. Nous allons voir que cette évolution a été grandement favorisée par le système fiscal mis en place sous la Révolution et qui a très peu évolué jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour des raisons qu'il nous faudra comprendre. La comparaison avec les autres trajectoires européennes, en particulier au Royaume-Uni et en Suède, nous permettra dans le chapitre suivant de mieux saisir la diversité des régimes propriétaristes européens au XIXe siècle et au début du XXe, et en même temps, les éléments d'unité qui les lient. La Révolution française et le développement d'une société de propriétaires. Voyons tout d'abord ce qu'il est possible de dire concernant l'évolution de la propriété et de sa concentration dans le siècle qui a suivi les événements révolutionnaires. Nous sommes ici aidés par l'abondance des sources. Car si la Révolution française de 1789 n'a pas réussi à mettre en place la justice sociale sur Terre, elle nous a néanmoins légué un incomparable dispositif d'observation des propriétés, au travers des archives successorales, qui constituent un appareil d'enregistrement des biens de toute nature, dont l'existence même est d'ailleurs intimement liée à l'idéologie propriétariste. Ces archives particulièrement riches et complètes nous ont permis, grâce à la numérisation de centaines de milliers d'actes successoraux, d'étudier de façon détaillée l'évolution de la répartition des patrimoines de toutes sortes, terres agricoles, actifs immobiliers, biens professionnels, actions, obligations, parts d'entreprise et placements financiers de toutes formes, depuis l'époque de la Révolution jusqu'au temps présent. Les résultats présentés ici sont issus d'une vaste recherche collective fondée sur des collectes exhaustives réalisées notamment dans les archives parisiennes. Il s'appuie également sur les dépouillements nationaux réalisés à diverses périodes par l'administration fiscale, ainsi que sur des collectes organisées dans les départements depuis le début du XIXe siècle. La conclusion la plus frappante est la suivante. La concentration de la propriété privée, qui était déjà extrêmement forte en 1800-1810, à peine plus faible qu'à la veille de la Révolution, n'a cessé de croître tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Concrètement, si l'on considère la France dans son ensemble, on constate que la part détenue par le centile supérieur de la distribution, les 1% les plus riches, dans le total des propriétés privées de toutes sortes, était d'environ 45% en 1800-1810 et avoisinait les 55% en 1900-1910. Le cas de Paris est particulièrement spectaculaire. La part des 1% les plus riches y était proche de 50% en 1800-1810 et elle dépassait 65% à la veille de 1914. Voir graphique 4.1. On constate même une accélération de la tendance à la hausse des inégalités patrimoniales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, pendant la période dite de la Belle Époque, 1880-1914. De fait, la concentration des fortunes semble progresser sans limite au cours des décennies précédant la Première Guerre mondiale. Au vu de ces courbes, il est naturel de se demander jusqu'où la concentration de la propriété privée aurait pu monter en l'absence des guerres et des violents chocs politiques des années 1914-1945. Il est également légitime de se demander dans quelle mesure ces chocs et les guerres elles-mêmes ne sont pas la conséquence des violentes tensions sociales provoquées par cette dérive inégalitaire, au moins en partie. Nous y reviendrons largement dans la troisième partie de cette enquête. Plusieurs points méritent d'être soulignés. Tout d'abord, il est important d'avoir présent à l'esprit que la concentration des patrimoines n'a en réalité jamais cessé d'être extrêmement forte dans un pays comme la France, au XIXe comme au XXe siècle et au début du XXIe siècle. En particulier, si la part détenue par le centile supérieur s'est abaissée considérablement au cours du XXe siècle, environ 55%-65% du total des patrimoines en France et à Paris à la veille de 1914, autour de 20%-30% depuis les années 1980, le fait est que la part détenue par les 50% les plus pauvres a toujours été extrêmement faible. Environ 2% du total des patrimoines au XIXe siècle, à peine plus de 5% aujourd'hui. Ainsi, ce vaste groupe social, constitué par la moitié la plus pauvre de la population, qui par définition a toujours été numériquement 50 fois plus nombreux que le centile supérieur, détenait une part dans le patrimoine total qui était environ 30 fois plus faible que celle du centile supérieur au XIXe siècle. Ce qui signifie aussi que le patrimoine moyen des membres du centile supérieur était environ 1500 fois plus élevé que celui des 50% les plus pauvres, et qui est environ 5 fois plus faible à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Ce qui implique que le patrimoine moyen du centile supérieur est seulement 250 fois plus élevé. Il faut également souligner que l'on retrouve dans les deux périodes cette même inégalité extrême à l'intérieur de chaque groupe d'âge, parmi les jeunes comme parmi les moins jeunes ou les personnes âgées. Ces ordres de grandeur sont importants car ils témoignent du fait qu'il ne faut pas surestimer l'ampleur de la diffusion de la propriété qui a eu lieu en deux siècles. La société patrimoniale égalitaire, ou plus modestement une société où la moitié la plus pauvre détiendrait des patrimoines autres que symboliques, reste à inventer. La réduction des inégalités, l'invention d'une classe moyenne patrimoniale. De fait, si l'on examine l'évolution de l'ensemble de la répartition de la propriété en France, il est frappant de constater que la part des classes supérieures, les 10% les plus riches, étaient comprises entre 80% et 90% du total des patrimoines au XIXe siècle, et qu'elle est toujours comprise aujourd'hui entre 50% et 60% du total, ce qui reste considérable. Voir graphique 4.2. Par comparaison, la concentration des revenus qui comprennent à la fois les revenus du capital, qui sont tout autant concentrés que la propriété du capital elle-même, voire un peu plus, et les revenus du travail, qui sont nettement moins inégalement répartis, s'est toujours située à des niveaux moins extrêmes. La part des 10% des revenus les plus élevés s'établissait au XIXe siècle aux alentours de 50% du revenu total, et elle est aujourd'hui comprise entre 30% et 35%. Voir graphique 4.3. Il n'en reste pas moins que la réduction des inégalités patrimoniales sur longue période est une réalité. Simplement, cette transformation profonde s'est faite au bénéfice non pas des classes populaires, les 50% les plus pauvres, dont la part dans le patrimoine total est restée extrêmement limitée, mais presque exclusivement à l'avantage de ce que l'on peut appeler les classes moyennes patrimoniales. Les 40% du milieu, c'est-à-dire les personnes comprises entre les 50% les plus pauvres et les 10% les plus riches, dont la part dans le patrimoine total était inférieure à 15% au XIXe siècle et se situe aujourd'hui autour de 40%. L'émergence de cette classe moyenne de propriétaires, qui individuellement ne sont pas très riches mais qui collectivement se sont retrouvés au cours du XXe siècle à détenir une masse de patrimoine supérieure à celle possédée par le centile supérieur, compte tenu de l'effondrement concomitant de la part de ce dernier dans le patrimoine total, constitue une transformation sociale, économique et politique fondamentale, dont nous verrons d'ailleurs qu'elle explique l'essentiel de la réduction de l'inégalité de la répartition des revenus sur longue période, en France comme dans la plupart des pays européens. Nous reviendrons également sur le fait que cette déconcentration de la propriété ne semble pas avoir nui à l'innovation et à la croissance économique, bien au contraire. L'émergence de cette classe moyenne a été de pair avec une plus forte mobilité sociale et la croissance a été plus forte depuis le milieu du XXe siècle que ce qu'elle n'a jamais été, et en particulier plus forte que ce qu'elle était avant 1914. À ce stade, le point marquant sur lequel je veux insister est que cette déconcentration des patrimoines ne débute qu'après la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1914, les inégalités de propriété semblent croître sans limite en France et tout particulièrement à Paris. Paris, capitale de l'inégalité. De la littérature aux archives successorales. L'évolution observée à Paris de 1800 à 1914 est particulièrement emblématique, car la capitale est véritablement le lieu qui rassemble à la fois les plus grandes richesses et les inégalités les plus extrêmes. Une réalité qui apparaît dans la littérature, en particulier dans le roman classique du XIXe siècle, tout aussi clairement que dans les archives successorales. À la fin du XIXe siècle, Paris regroupe autour de 5% de la population française, un peu plus de 2 millions d'habitants pour une population totale d'environ 40 millions. Mais ces habitants détiennent à eux seuls plus de 25% du total des patrimoines privés du pays. Pour le dire autrement, le patrimoine moyen à Paris était plus de 5 fois plus élevé que le patrimoine moyen pour l'ensemble du pays. Dans le même temps, Paris était aussi l'endroit où les écarts entre les plus pauvres et les plus riches étaient les plus considérables. Au XIXe siècle, la moitié de la population en France environ décède sans aucun bien à transmettre. À Paris, cette proportion de défunts sans aucun patrimoine oscille entre 69% et 74% de 1800 à 1914, avec une légère tendance à la hausse. En pratique, il peut s'agir de personnes dont les effets personnels, meubles, linge, vaisselle, ont une valeur marchande tellement réduite que l'administration renonce à les enregistrer. L'absence de déclaration peut également concerner des décès pour lesquels les maigres biens sont entièrement absorbés par les frais d'inhumation ou bien par les dettes, auquel cas les héritiers peuvent choisir de renoncer à l'héritage. Il est toutefois frappant de constater que nous observons, parmi les héritages enregistrés dans les archives, des patrimoines absolument minuscules, comme d'ailleurs la loi en fait l'obligation à l'administration et aux héritiers, faute de quoi leurs droits de propriété risquent de ne pas être reconnus, ce qui peut avoir des conséquences sérieuses, en particulier celle de ne pouvoir faire appel à la force de police en cas de chapardage de ces biens. Pour ce qui est d'un bien immobilier, professionnel ou financier, il est tout à fait impossible d'en hériter sans qu'une déclaration successorale soit établie. Ce vaste groupe social de défunts sans patrimoine, environ 70% de la population parisienne au XIXe siècle, comprend par exemple le père Goriot, qui, si l'on en croit Balzac, meurt en 1821, abandonné par Delphine et Anastasie, dans la pauvreté la plus absolue. Sa logeuse, Madame Vauquer, réclame le reliquat de pension à Rastignac, qui doit aussi payer le coût de l'enterrement, coût qui, à lui seul, dépasse la valeur des effets personnels du vieil homme. Goriot avait pourtant fait fortune dans la fabrication et le commerce de pâtes et de grains pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, avant de tout donner pour marier ses deux filles dans la bonne société parisienne de son temps. Ce groupe de défunts sans patrimoine inclut aussi et surtout des personnes qui n'ont jamais rien possédé de tangible et qui meurent aussi pauvres qu'elles ont vécu. Le résultat le plus frappant est que cette proportion de décès parisiens sans aucun patrimoine allégué est toujours aussi importante un siècle plus tard, en 1914, à la veille de la guerre, en dépit de l'enrichissement considérable et du développement industriel que le pays dans son ensemble a connu depuis l'époque de Balzac et du père Goriot. À l'autre bout de l'échelle, la capitale est également au XIXe siècle et à la belle époque le lieu où se concentrent les plus grandes fortunes. Les 1% des décès des plus riches rassemblent à eux seuls la moitié de la valeur des transmissions en 1810-1820, et cette proportion avoisine les deux tiers autour de 1910. Si l'on examine les 10% les plus riches, on constate que leur part était comprise entre 80% et 90% du patrimoine total en France de 1800 à 1914, et qu'elle dépassait les 90% à Paris dans les deux cas avec une tendance à la hausse. Pour résumer, la quasi-totalité de la propriété était concentrée au sein du décile supérieur et la plus grande partie au sein du centile supérieur, alors que l'immense majorité de la population ne possédait presque rien. Pour se faire une idée un peu plus concrète de l'inégalité des situations individuelles et des patrimoines dans la société parisienne de l'époque, on peut ainsi rappeler que le cadastre ne prévoyait pas la possibilité de détention d'appartements individuels pour la plupart des immeubles parisiens avant la Première Guerre mondiale. Autrement dit, le cas le plus courant était de posséder un immeuble en entier, ou plusieurs immeubles, ou bien de ne rien posséder du tout et de payer un loyer à son propriétaire. C'est cette hyperconcentration de la propriété qui conduit le sinistre Vautrin à expliquer au jeune Rastignac qu'il ne faut surtout pas compter sur ses études de droit pour réussir sa vie. La seule façon d'atteindre la vraie aisance est de mettre la main par tous les moyens sur un patrimoine. Ce discours, étayé par des références multiples au niveau de vie des avocats, des juges et des propriétaires de l'époque, ne traduit pas simplement les obsessions de Balzac pour l'argent et la fortune, lui-même lourdement endetté à la suite de malheureux investissements et écrivant sans cesse pour se refaire. Tous les éléments collectés dans les archives indiquent qu'il s'agit d'un tableau assez juste de la répartition des revenus et des propriétés en vigueur en 1820. Et plus généralement entre 1800 et 1914. Le discours de Vautrin est l'expression parfaite des sociétés de propriétaires, c'est-à-dire de sociétés où l'accès à l'aisance, les formes de sociabilité, les représentations sociales et l'ordre politique sont presque entièrement déterminés par l'ampleur de la propriété. La diversification des portefeuilles et des formes de propriété. Il est important d'insister sur le fait que cette concentration extrême de la propriété, qui est de surcroît de plus en plus forte au cours du XIXe et au début du XXe siècle, prend place dans un contexte de modernisation et de transformation profonde des formes mêmes de la détention patrimoniale et d'un renouvellement considérable des structures économiques et financières, doublé d'une internationalisation sans précédent de la structure des actifs. Les données successorales extrêmement détaillées dont nous disposons permettent en particulier de constater que la composition des patrimoines parisiens devient de plus en plus diversifiée à la fin de la période. En 1912, les propriétés détenues par les résidents de la capitale sont ainsi constituées pour 35% de biens immobiliers, dont 24% d'immobilier parisien et 11% d'immobilier provincial, y compris des terres agricoles. Pour 62% d'actifs financiers et pour à peine 3% de meubles, objets précieux et autres effets personnels. Voir tableau 4.1. La prépondérance des actifs financiers témoigne de l'essor industriel et de l'importance de la détention d'entreprises et des marchés boursiers. Aussi bien d'ailleurs dans le secteur manufacturier, où le textile est sur le point d'être dépassé par la sidérurgie et le charbon à la fin du XIXe siècle, et puis par la chimie et l'automobile au début du XXe siècle, que dans l'agroalimentaire, les chemins de fer ou le secteur bancaire particulièrement florissant. Ces 62% d'actifs financiers sont d'ailleurs eux-mêmes extrêmement variés, puisqu'on compte 20% d'actions et autres parts d'entreprises, cotées ou non cotées, elles-mêmes décomposées en actions françaises, 13%, et étrangères, 7%. 19% d'obligations privées, c'est-à-dire d'obligations, bons et autres titres de dette émis par des entreprises, elles-mêmes françaises, 14%, et étrangères, 5%. 14% d'obligations publiques, c'est-à-dire de titres de dette émis par des gouvernements, également françaises, 5%, et étrangères, 9%. Et 9% d'autres actifs financiers, c'est-à-dire de dépôts, espèces, parts diverses, etc. On croirait voir un portefeuille parfaitement diversifié au sens des manuels modernes d'économie et de finance, sauf qu'il s'agit là de la réalité telle qu'elle a été enregistrée dans les registres successoraux parisiens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On observe également, pour chaque défunt, le détail des titres, des entreprises et des secteurs. Deux résultats supplémentaires méritent d'être notés. D'une part, les patrimoines les plus élevés sont encore plus fortement financiarisés que les autres. En 1912, la part des actifs financiers atteint 66% des patrimoines des 1% les plus riches, contre 55% pour les 9% suivants. Pour les 1% des Parisiens les plus riches, qui à eux seuls possèdent plus des 2/3 du patrimoine total en 1912, l'immobilier détenu dans la capitale représente à peine 22% des actifs, et l'immobilier provincial tout juste 10%. Alors que les actions s'élèvent à elles seules à 25%, les obligations privées à 19% et les obligations publiques et autres actifs financiers à 22%. Cette prépondérance des actions, obligations, dépôts et autres actifs monétaires sur les placements immobiliers exprime une réalité profonde. L'élite propriétaire de la Belle Époque est avant tout une élite financière, capitaliste et industrielle. D'autre part, on constate que les placements financiers à l'étranger ont énormément progressé entre 1872 et 1912. Leur part dans le patrimoine parisien total est passée de 6% à 21%. L'évolution est particulièrement marquée pour les 1% les plus riches qui détiennent l'essentiel des actifs internationaux. La part des placements étrangers dans leurs actifs est passée de 7% en 1872 à 25% en 1912, contre tout juste 14% pour les 9% suivants et à peine 7% pour les 40% suivants, voire tableau 4.1. Autrement dit, seuls les plus hauts portefeuilles s'investissent massivement à l'étranger, alors que les patrimoines moins élevés restent beaucoup plus nationaux. Ce développement spectaculaire des actifs internationaux, dont la part a fait plus que tripler en 40 ans, concerne tous les types de placements étrangers, comme les obligations publiques étrangères, dont la part dans les patrimoines des 1% les plus riches passe de 4% à 10% entre 1872 et 1912. On observe notamment les fameux emprunts russes en plein développement après la conclusion d'une alliance militaire et économique entre la République française et l'Empire tsariste en 1892. Mais cela comprend également les obligations émises par de très nombreux autres États étrangers, en particulier des États européens, mais également l'Argentine, l'Empire ottoman, l'Empire chinois, le Maroc, etc., parfois dans le cadre de stratégies d'appropriation coloniale, dans lesquelles les propriétaires français vont trouver de solides rendements, souvent sous la protection de leur gouvernement, que l'on imaginait inébranlable jusqu'au choc de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe. La part des actions et obligations privées et étrangères progresse encore plus rapidement, passant de 3% à 15% du total des actifs au sein des portefeuilles des 1% les plus riches entre 1872 et 1912. On peut citer les placements dans le canal de Suez ou de Panama, les chemins de fer russes, argentins ou américains, le caoutchouc indochinois et dans de multiples autres compagnies privées de par le monde.